この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
ギギディチューバンジャパン、enchanté。
Enchanté Damien。
Alors Guigui, on va commencer par le point promo avec le livre 72 saisons du Japon qui, si j'ai bien compris, est en rupture de stock en physique mais toujours accessible en boutique et en e-book, c'est ça?
Alors non, maintenant il est de retour, ça y est, j'ai fait une nouvelle impression, donc il est disponible dans les Fnac, Cultura, tous les points de vente disponibles.
Et ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle rassurante déjà pour commencer. Et tu as en plus en complément une encyclopédie des Matsuri.
Voilà, ça c'est en e-book parce que c'est un format interactif. Donc en fait, les Matsuri, ce sont les festivals japonais qui ponctuent justement l'année japonaise. Et donc, ça représente 600 festivals. Et donc, en cliquant dessus, on peut avoir les liens vers les sites officiels pour avoir toutes les infos justement.
Quel bilan tu donnes justement de cette première impression? Alors déjà, j'ai une partie de la réponse dans la question elle-même puisque c'est en rupture de stock. Mais voilà, quel bilan au-delà des simples chiffres de vente tu as de ce bouquin?
Eh bien, c'était une belle aventure. C'est contrairement à beaucoup de livres de youtubeurs ou autres où ça va être un projet annexe pendant qu'ils font autre chose, etc. Ben moi, c'était vraiment quelque chose de... C'est le premier plan de ce que je faisais finalement. Donc, j'ai mis vraiment une part de moi. J'ai tout fait tout seul. C'est un livre qui est fait de manière artisanale puisque je ne suis pas passé par une maison d'édition. J'ai vraiment tout fait par moi-même. Et donc, très content. C'était une belle aventure. Et puis, c'est pour ça que je peux paraître un peu forceur à en parler encore parce que là, ça fait 2 ans hein, maintenant qu'il est sorti. Mais c'est parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai mis beaucoup de moi.
C'est quelque chose qui, de toute façon, est accepté puisque maintenant, beaucoup de youtubeurs font la promo de leurs propres bouquins, souvent d'ailleurs auto-édités. Mais justement, est-ce que tu as déjà d'autres projets, en livre notamment?
Oui, j'aimerais bien faire un second livre. Je commence à travailler dessus. Alors, ça prend beaucoup de temps, comme le premier. Hein. Je laisse beaucoup de temps pour la réflexion sur ce que je vais mettre dedans ou pas avant de commencer l'écriture et les photos. Donc, j'aimerais bien en faire un autre prochainement dans quelques mois que j'annoncerai.
Ici, tu es à Japan Expo, notamment alors en tant qu'invité, mais à la base, la première fois que j'entends parler de ta venue ici, c'est dans le cadre du stand sur Fuji Yoshida à l'espace tourisme. À ce que j'ai compris de ta carrière, tu as commencé à faire des vidéos lors de tes voyages au Japon. Tu as été pris pour des vidéos ensuite promotionnelles touristiques. Tu viens du milieu du tourisme. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait choisir Fuji Yoshida plutôt que n'importe quelle autre destination? Ou peut-être l'inverse d'ailleurs.
Alors, c'est eux qui m'ont choisi finalement, puisque eux, ils aiment la France. Ils ont accueilli les équipes de rugby pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, les équipes de rugby françaises. Et donc, ils adorent ça et ils veulent vraiment parler aux Français, communiquer, montrer tout ce qu'ils font. Non seulement attirer les Français, mais aussi montrer leur artisanat. Et c'est ce qu'ils font ici à Japan Expo. Et donc, je m'entends très bien avec eux. Je suis venu très souvent, même... En fait, j'attends pas qu'ils m'invitent pour y aller. Hein. Je vais très, très souvent sur mon temps libre amener mes amis là-bas parce que c'est 1h50 de Tokyo en voiture. C'est la ville où on peut faire l'ascension depuis le point zéro du mont Fuji. Donc, c'est le seul point qu'on peut faire comme ça, la seule ascension depuis le point zéro, comme on faisait autrefois il y a 300, 400 ans. Aujourd'hui, la grande majorité des gens commencent l'ascension à partir de la 5e station. Donc, il y a un bus qui emmène à la 5e station et on commence. Mais en fait, ça fait que la moitié. Et donc le point zéro, il se situe à Fuji Yoshida. Et c'est là où autrefois les pèlerins venaient se reposer. Il y a des petites auberges qui sont vieilles là encore de 400 ans, tenues par les mêmes familles, où ils se reposaient la veille. Et ensuite, ils commençaient l'ascension en faisant une prière au sanctuaire qui est tout en bas de la montagne. Et en plus, c'est évidemment le mont Fuji à chaque coin de rue qu'on retrouve dans la ville. Hein, c'est vraiment superbe parce que évidemment, on veut faire l'ascension du mont Fuji, mais ça, c'est seulement 2 mois dans l'année, c'est juillet-août. Mais le reste du temps, si on ne peut pas faire l'ascension, on a envie de le voir quand même, le mont Fuji. On vient au Japon, c'est un truc qu'on veut faire. Et donc, le meilleur endroit pour le voir, c'est au pied du mont Fuji, à Fuji Yoshida.
Et quand on est au sommet, en plus de ça, on voit le soleil se lever, c'est assez magique.
Oui, même si je recommande de ne pas être au sommet pour profiter du lever de soleil, parce que c'est là où il y a beaucoup de monde, tu sais, c'est un peu le problème en ce moment de certains endroits où il y a une surfréquentation touristique. En fait, tu fais en ayant 1 heure de retard, tu profites de la même vue, tu es un peu plus bas, mais la vue ne change quasiment rien, et par contre, tu n'as personne.
Tu soulèves un point super intéressant par rapport justement au ce qui est considéré comme du surtourisme au Japon. Là, tu es aux premières loges pour voir ça. Est-ce qu'il y a vraiment un afflux massif à ce point-là de tourisme au Japon?
Alors, quand on regarde les chiffres, effectivement, mars, avril, mai de cette année, on a battu des records. Il n'y avait jamais la barre des 3 millions de visiteurs dans le mois atteinte. Et ça a été le cas là 3 mois de suite. Et on n'a pas encore les chiffres pour juin, mais ça risque d'être la même chose. Ce qui fait que 2024 sera une année record, très certainement. Maintenant, dans les faits, quand on se balade, quand on est au Japon, beaucoup de gens vont dans les mêmes endroits. Donc effectivement, on peut sentir cet aspect de surtourisme, mais seulement dans des coins très ciblés, car c'est ultra connu. Mais dans le reste du Japon, on ne ressent pas du tout ça. Et même dans les grandes villes, même à Kyoto, on peut passer une journée à Kyoto sans croiser un seul groupe de touristes, vraiment.
C'est pas un peu triste, justement, cette tendance du tourisme actuel qui fait qu'on veut absolument tous la même photo Instagrammable?
C'est ça, c'est le tourisme Instagram. Pourquoi, en fait, ça pose une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on voyage parce que c'est un marqueur social et donc on veut montrer qu'on voyage, qu'on fait des choses, qu'on a une vie entraînante? Est-ce qu'on nous voyage parce qu'on veut prendre de belles photos? Est-ce qu'on veut faire des rencontres? Enfin, c'est intéressant. Est-ce qu'on veut bien manger, etc.? Donc, ça pose cette question-là. Et c'est vrai que même le truc de dire « moi, je veux pas voir de touristes, je veux être vraiment le seul », mais dans ce cas-là, donc si tu te ramènes à 3h du mat, 4h du mat, ok, il n'y a personne, mais est-ce que c'est ça voyager aussi, d'avoir tous les trucs vides et tu prends ta photo et c'est tout? Ta photo vide, en fait, tu peux la voir sur Google, c'est pas ça le plus important, c'est de vivre des expériences et des choses et des rencontres, finalement. Et pour ça, le mieux, c'est d'aller dans les coins plus reculés.
Justement, dans tes vidéos, parmi tes vidéos depuis 12 ans, plus maintenant le site, parce que tu orientes les gens par les articles vers tes vidéos, et en plus, il y a des cartes interactives. Donc là, tu essaies justement d'éclairer les gens. C'est ta démarche d'éclairer justement les gens sur leur voyage au Japon.
En fait, ma démarche, c'est de ne pas dire « alors, il faut aller là, là, là et là ». Moi, je veux présenter plein d'endroits, donner un peu mal à la tête à tout le monde pour qu'ils aient plein d'endroits et qu'ils disent « Ah, mais je ne sais pas où je vais aller, il y a tellement d'options. » Pour qu'ensuite, chacun construise son voyage. Le but, ce n'est pas qu'on fasse tous le même voyage. C'est que aussi, c'est sympa quand tu prépares ton voyage, c'est un peu le voyage avant le voyage. Tu sais, tu te projettes, tu t'imagines, tu cherches des choses, etc. Et finalement, construire son propre voyage, ça fait qu'il va être unique. Bien sûr, on va trouver les destinations en regardant des endroits sur Internet parce qu'on ne peut pas les inventer. Mais les enchaînements de destinations, ça va faire quelque chose qui est unique, parce que c'est pas ok, je vais suivre le parcours qu'on m'a indiqué. Donc c'est ça que j'essaie de faire, c'est de pas dire allez là, là et là, mais de dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et après vous vous démerdez.
Dans tes vidéos, on a un rythme, une vibe très différente d'autres youtubeurs. Tu nous emmènes en voyage, en réalité, il y a une vibe véritablement, ce qui existait il y a une vingtaine d'années avec des documentaires qui s'appelaient Lonely Planet, où le type se baladait et avait un rapport très, finalement, très amical avec les locaux, une vraie vibe, j'y reviens, avec les locaux, et on te trouve très respectueux justement, et on voit les liens que tu arrives à créer. Comment tu t'y prends justement pour briser la glace avec ces gens-là que tu ne connais pas, quoi, à la base?
Je sais pas, c'est comme ça. En fait, quand tu te balades forcément dans les endroits qui sont pas très connus, tu vas facilement faire des rencontres, tout simplement. Et c'est juste ça. Et en fait, ce que je fais, tout le monde le fait. Quasiment, quand j'ai des retours de gens qui me disent « je suis allé à tel endroit, j'ai rencontré un papy qui m'a emmené là, là, là ». Les aventures que je montre en vidéo, finalement, tout le monde peut vivre ça. Et la majorité des gens qui s'aventurent un petit peu vont vivre ce genre de choses.
Les premières fois, t'as dû quand même galérer en japonais. J'imagine que tu l'as bûché en France comme il faut, mais arriver au Japon, c'est pas la même d'une certaine façon.
Effectivement, alors la langue peut poser un problème, même si c'est pas non plus ce qui c'est pas une barrière insurmontable pour faire des rencontres. Mais effectivement, ça aide de connaître un petit peu quelques mots. Moi, j'avais appris pendant 5 mois avant mon tout premier voyage, tout seul par internet, et j'avais déjà quelques bases. Et c'était suffisant, clairement. Ce qu'il faut, en fait, c'est... ce qui fait la différence, c'est l'intention qu'on dégage. Juste en se baladant, est-ce qu'on montre qu'on est curieux, qu'on a envie de découvrir des choses, ou alors on est un peu renfermé? Et effectivement, si on vient un groupe de 7 personnes, on va parler entre nous en français, on va être un peu enfermé dans notre bulle de 7 personnes. Si tu viens tout seul ou alors à deux, et qu'on est là à regarder un peu toutes les boutiques, à poser des questions, à être un peu émerveillé partout, les gens vont facilement venir vers nous.
Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà, en quelque sorte, tu t'étais déjà fléché le parcours avec des Japonais qui étaient, par exemple, venus en France, ou des gens que tu savais que tu allais retrouver là-bas?
Alors effectivement, les premiers voyages, je passais par des sites qui n'existent plus, okay. Des sites de correspondance, donc pour trouver des Japonais, Japonaises. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers amis, finalement. Mais c'était une autre époque, effectivement. Maintenant, il n'y a plus ce genre de site. Mais ça peut toujours se faire, je pense. Il y a des associations franco-japonaises, il y a des bars franco-japonais aussi à Tokyo. Il y a plein de méthodes pour pouvoir rencontrer des gens. Et puis, en étant sur Paris ou même Lyon, des grandes villes comme ça, on peut facilement aussi rencontrer des Japonais.
Juste pour en terminer avec le côté touristique, lieu incontournable, etc. Il y en a qui, beaucoup quand même, désormais considèrent que commencer un voyage au Japon, il vaut mieux peut-être pas commencer par Tokyo d'une certaine façon. Est-ce que tu serais d'accord pour avoir cette vision des choses là aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire tu dirais prenez Tokyo, prenez-vous la claque et puis après découvrez?
Si, Tokyo c'est très bien. De toute façon, on arrive forcément par là, soit Tokyo, soit Osaka. Donc oui. Après, c'est la seule nuance, c'est pas que Tokyo. C'est juste ça. Mais bien sûr, on vient à Tokyo, on découvre, il y a de très belles choses à faire. C'est pas, Tokyo ne se résume pas qu'à Shibuya, Shinjuku, Asakusa, les grands quartiers très connus. Tokyo, c'est 23 arrondissements. En général, on n'en connaît même pas 4 ou 5. 23 arrondissements, ça c'est le centre de la ville de Tokyo. Et après, c'est aussi 30 villes et villages et 11 îles habitées. Il y a une île qui appartient à Tokyo qui est accessible à seulement... il n'y a pas d'avion, il faut prendre 24 heures de bateau pour y accéder. C'est un peu trop profond, mais il y a plein d'endroits en fait qu'on peut découvrir à Tokyo, même loin des foules.
Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Shinamachi, parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a une série de vidéos entières sur ça. Shinamachi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de débarquer à Tokyo et qui voudrait dire je voudrais voir un quartier où de vrais Tokyoïtes, où les gens habitent?
Tu fais bien de dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un endroit que je vais conseiller pour quelqu'un qui veut faire du tourisme. En fait, qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut vivre une expérience touristique avec plein de boutiques, des choses à manger, etc. Ou est-ce qu'on veut juste ressentir une ambiance locale? Parce que c'est aussi intéressant à vivre en voyage, et donc juste voir un peu la vie quotidienne défiler sous nos yeux. Et donc, même s'il n'y a pas énormément de choses à faire, on voit des petites ruelles très sympas qui nous rappellent les animés, mangas, etc. Donc Shinamachi, c'est le quartier où je vis, c'est le repère du grand vizir, voilà, la tanière du loup. Depuis que j'habite au Japon, je vis dans ce quartier-là. J'ai déménagé 4 fois, mais toujours dans le même quartier, parce que j'aime beaucoup justement l'ambiance. C'est à une station d'Ikebukuro, qui est un gros quartier très animé, mais en même temps, c'est un quartier tranquille, et c'est ce que je recommande en fait. À côté de chaque grand quartier animé, que ce soit Shibuya, Shinjuku, Ueno, Ikebukuro, vous prenez juste le train pour une station ou deux, et en fait vous avez plein de petits quartiers comme ça qui sont très charmants, qui vont être quand même un peu vivants parce que c'est juste à côté d'un gros quartier, mais en même temps avec une atmosphère un peu locale.
Donc on peut se mêler, si j'ose dire, assez plus facilement qu'on le pense, à la vie quotidienne des locaux et à suivre par exemple les tendances qui sont propres à la ville. Alors là, on parle de Tokyo, mais ça peut être n'importe où. Et donc, voilà, simplement suivre les tendances locales plutôt que les grands rendez-vous touristiques.
Après, tout dépend de ce qu'on recherche en voyage. Est-ce qu'on veut prendre que des claques de partout et faire plein de choses, que ce soit très animé, qu'il y ait toujours des choses à faire? Ou est-ce qu'on veut un peu déambuler, se perdre, flâner? Ça dépend des gens, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voyager. En fait, s'il y a des mauvaises manières, c'est quand on fait n'importe quoi. Mais sinon, quelqu'un qui vient au Japon, qui va tous les jours à Akihabara pour aller au Game Center, si ça lui plaît, c'est ses vacances et il ne va pas se forcer à faire quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'il faut faire ça. Donc il n'y a pas de meilleure manière. Moi, je ne juge pas justement les manières de chacun de voyager. C'est des vacances, il faut faire ce qu'on aime, tout simplement.
D'où le site avec toutes les propositions que tu mets sur ton site. Mais justement, par rapport aux vidéos en elles-mêmes, alors auparavant, tu faisais ça tout seul. J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois avoir peut-être une équipe autour de toi. Comment ça se passe?
Vraiment tout seul. Je tiens à faire ça. Et je trouve que c'est aussi sympa, c'est important d'avoir... Moi, je viens quand même de... une génération entre guillemets de youtubeurs où justement on faisait ça, il n'y avait pas d'argent encore sur YouTube, personne ne gagnait d'argent, on le faisait pour le plaisir. Et donc c'est bien de garder un peu ce côté-là, même si je peux gagner un peu d'argent de temps en temps avec, mais de garder ce truc-là et donc de faire les choses de manière artisanale, même si ça ne va pas être super, il y a des petits défauts, les animations elles sont un peu cheap, mais c'est pas grave, les gens aiment ça parce que c'est un peu plus proche des gens, c'est pas la surproduction ou alors le truc qu'on voit un peu partout, parce que c'est le cas aujourd'hui, hein. Les productions sont faites par les mêmes agences et donc on intervertit le présentateur et c'est un peu la même chose finalement. Donc là, ça a peut-être un petit charme, le fait que ce soit pas parfait justement.
Le but n'est pas de bitcher, le but n'est pas de casser quelqu'un, quoi que ce soit. Simplement, il y a quand même une grosse production aujourd'hui de Japon, de contenu Japon, mais de contenu ultra cliché du Japon. On n'est pas au niveau des articles insolites à la fin des journaux en disant « Regardez, il s'est marié dans un game center avec un traversin, enfin, voilà où sa console, voilà ». Mais quand même, il y a beaucoup de trucs supra clichés, et quel regard t'as sur ça, toi qui, d'une certaine façon, par tes vidéos, montre tout l'inverse, quoi.
Je suis pas trop, après, je regarde pas trop, donc je peux pas dire quoi que ce soit, mais... Il n'y a pas de chaîne qui fait que des trucs comme ça, clichés ou quoi. En général, il peut y avoir une vidéo un peu cliché parce que ça fait cliquer, et après une vidéo sympa, intéressante, etc. Donc il y a un peu de tout finalement. Et après, c'est aussi un autre public. Ça vise un public qui ne s'intéresse pas forcément au Japon, qui va s'y intéresser au fur et à mesure en voyant ce genre de vidéo peut-être au début parce que c'est rigolo, oh là là, ces Japonais, ils sont fous. Et puis au fur et à mesure, s'intéresser à d'autres choses plus profondes.
Alors, on a parlé du bouquin, on a parlé de la suite de la chaîne. Là, il s'est passé plusieurs mois sans vidéo. Là, tu as sorti une vidéo visiblement complémentaire à ce que tu as écrit. Est-ce que tu as une idée de grand projet qui soit un peu autre, justement?
Non, moi, c'est aussi ma caractéristique. Hein. Il n'y a jamais de grands projets. C'est toujours la même chose depuis 12 ans. Mais alors, ça évolue, bien sûr, mais c'est le même esprit. Et c'est un peu... je n'ai pas forcément envie de changer, de m'adapter. En gros, l'année dernière, j'ai fait une vidéo par mois présentant chacun des mois de l'année. C'était sur le thème du livre, justement. Et ensuite, là, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo récapitulative sur les 12 mois de l'année, justement. Mais donc voilà, cette série de vidéos m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail et ça m'a beaucoup épuisé. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps ensuite pour faire la suivante. Mais depuis le début, même il y a 12 ans, mes vidéos, des fois, il y avait 3 mois entre chaque vidéo. Enfin, ça a toujours été comme ça, mais parce que je le fais tout seul en même temps et que c'est pour le plaisir. J'ai pas de sponsor qui me demande de placer une minute de vidéo où je parle d'un VPN ou je sais pas quoi. Et donc, il me demande une deadline. Donc, j'ai pas de ça. Donc, en fait, je fais librement quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie et voilà.
Tu te fais financer des fois par les organismes aussi des endroits où tu viens?
Ça peut arriver. Après, pas forcément sur les vidéos. C'est plus ça sur les articles ou sur des photos, sur des posts sur les réseaux sociaux. Les vidéos, pas trop, mais ça arrive de temps en temps. Et en gros, ça change rien de ce que je fais d'habitude. C'est juste que ils me donnent de l'argent et moi, je dois quand même leur fournir un planning. C'est moi qui le prépare, mais je leur envoie un planning avant pour qu'ils valident, pour qu'ils voient que je vais faire quand même des choses intéressantes. Et c'est tout. Après, il n'y a pas de vérification de la vidéo, il n'y a rien du tout. C'est vraiment la même chose. Ils me font confiance. Mais ça s'est fait sur la durée aussi, donc c'est le luxe que j'ai, c'est que je peux vraiment faire exactement la même chose que je fais quand je ne suis pas payé, mais être payé.
On en est témoin, juste pour continuer sur ça, on en est témoin l'an dernier, on a vu toute la file d'attente qu'il y avait pour te rencontrer sur le stand de Fuji Yoshida. Visiblement, il n'y a pas que les professionnels qui sont très contents de ton travail et qui justement sont venus te remercier, je pense que ce sera encore le cas aujourd'hui et demain. Et justement, les premiers qui sont venus te dire c'est trop bien et grâce à toi j'en ai appris ou j'ai façonné mon voyage, etc. Comment tu l'as pris à ce moment-là?
Alors c'était un petit moment puisque ça fait 12 ans, mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter les gens qui parfois en faisaient un peu trop. Mais j'ai compris quelque chose avec le temps, c'est qu'on ne maîtrise pas, et c'est pareil pour toute création, que ce soit de la musique, du cinéma ou autre, enfin peu importe, hein, de la vidéo. En fait, on ne maîtrise pas comment c'est perçu par les gens. Donc, quand quelqu'un fait une musique, il ne fait pas une musique pour sauver la vie des gens. Et pourtant, ça sauve la vie de certaines personnes. Alors, c'est un peu ce côté-là. Donc, on ne maîtrise pas. Et donc, des fois, des gens vont me dire, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a changé ma vie, etc. Mais ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça, parce que ce n'est pas du tout le but. Et c'est pas, je suis en calbar dans ma chambre en train de faire mes vidéos, c'est rien, quoi. Mais j'ai eu du mal à accepter. Mais maintenant, j'accepte le fait que, tant mieux si ça peut aider des gens, si ça peut inspirer des gens. Moi, mon but, ce n'est pas d'aider les gens, de sauver des vies, ce n'est pas du tout ça. C'est de donner des idées de voyage à des gens et que ça leur fasse un beau voyage, tout simplement.
Juste pour en terminer, parmi toutes les vidéos que tu as faites, parmi toutes les rencontres que tu as eues, je ne vais pas te demander ta préférée ou quoi que ce soit, ça c'est classique, mais peut-être une qui t'a le plus marqué ou en tout cas qui t'aurait servi de déclic en quelque sorte, qui a véritablement été un game changer dans ta carrière.
Alors, une vidéo que j'ai faite sur une apprentie geisha. Donc je l'ai suivi pendant toute une journée, c'est quelque chose qui est très difficile à voir comme autorisation, j'ai jamais vu ailleurs quasiment, peut-être il y a eu un reportage sur TF1 il y a longtemps où ils ont réussi, mais sinon ça se fait pas, et donc j'ai eu cette chance immense de pouvoir la suivre, on la voit se maquiller, je rentre dans la maison, etc., on voit tout ce qui se passe, et donc ça c'était vraiment superbe, et à ce moment-là c'était le moment où j'étais encore très amateur dans ma manière de filmer, parce que j'avais une toute petite caméra, vraiment pendant très longtemps j'ai filmé avec un petit truc de tout le monde peut avoir. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit quand même, c'est tellement beau que c'est un peu du gâchis que je sois là à filmer avec mon petit truc de rien du tout. Et donc, c'est là où j'ai eu ce déclic à me dire, je vais acheter quand même une belle caméra. Et je me suis intéressé à la photo et à la vidéo. Et depuis, les vidéos sont plus jolies.
Il fallait que tu level up, quoi.
Clairement, parce que c'était trop beau pour ce que je faisais. Et ensuite aussi, c'est une super vidéo, bien sûr, parce que quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, on rentre dans l'intimité du monde des geishas. Et j'ai aimé faire ça. J'ai fait des vidéos sur des écoles aussi, des lycées, écoles maternelles, collèges, à Fuji-Yoshida notamment. Donc ce genre de vidéos, j'aime beaucoup. Et prochainement, peut-être, dans le monde des sumos. Je suis allé voir des sumos il n'y a pas longtemps encore. Et juste, bon, ils ont quelques petites restrictions. Ils me disaient qu'on peut filmer, mais pas pour YouTube. On peut filmer pour Instagram, Facebook, mais pas pour YouTube. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut régler. Mais ça va se faire. Ça va certainement se faire.
Je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup, c'est très sympa.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM.